Elle est sympathique, la bonne nouvelle de Dieu, non ? Et c'est un texte qui gratte un peu. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans l'Évangile, c'est la parole du Christ même qu'il nous donne. Et c'est vrai que quand nous entendons ces exigences du Christ, on peut avoir certaines personnes qui viennent nous voir qui disent « Bon, Père, on peut être sérieux 5 minutes ». C'est sympa comme idéal, mais enfin, c'est pas humain. Alors à quoi ça sert si c'est pas humain, si c'est pas viable? Pourquoi entendre ça? Pourquoi le mettre dans la parole de Dieu? Comment est-ce que nous comprenons cette parole du Christ qui nous redit « Pas un seul iota de la loi ne passera. Pas un seul iota de la loi ne passera. » J'avais ce débat-là jeudi avec des jeunes professionnels sur des questions de nature et grâce, un peu compliquées, hein. Et il finissait par me dire, mais enfin, Père Olivier, il y a quand même des commandements dans l'Ancien Testament, on ne les respecte pas, c'est fini la loi, ça. Et je dis, bah oui, mais comment est-ce que tu entends cette parole du Christ? Pas un seul iota de la loi ne disparaîtra. Et celui qui enseignera, je n'ai plus la phrase exacte, mais de ne pas respecter le moindre de ses commandements sera déclaré le moindre dans le royaume de Dieu. Il insiste, hein, il y a 3 fois de suite. Ce n'est pas une phrase qui lui a échappé, c'est très clairement un enseignement du Christ qu'il nous donne. Il nous donne sa parole. Alors comment comprendre effectivement à la fois cette phrase et pourtant ce que nous avons l'impression parfois de vivre dans l'Église quand on dit « mais l'Ancien Testament avec tous ses commandements, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ?» Si vous êtes familier des Écritures, et même, je pense, plus largement, si simplement vous avez fait un peu de catéchisme, vous connaissez certainement la manière dont le Christ lui-même a rassemblé tous les commandements. Le plus grand de tous les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. Le Christ commence à nous donner une espèce de boussole, en disant en fait c'est ça qui est important. Et effectivement, vous avez des saints, des grands saints, qui ont eu des paroles un peu dans ce sens, en même temps c'est la parole du Christ, donc c'est pas étonnant, saint Augustin qui nous dit sa fameuse phrase « Aime et fais ce qu'il te plaît », ou ce que tu veux, pardon. « Aime et fais ce que tu veux ». Alors c'est sympathique quand on entend ça, mais il faut bien comprendre toute la phrase « Aime et après fais ce que tu veux ». Et saint Paul lui-même nous dira que ta liberté ne soit pas un prétexte pour pécher. Effectivement, quand saint Augustin dit « aime et fais ce que tu veux », il commence par donner un commandement, comme le Christ, « aime ». Et en réalité, frères et sœurs, elle est peut-être là toute la nouveauté du Christ, c'est qu'il nous donne le commandement le plus exigeant, celui d'aimer, celui d'aimer. Romano Guardini, il n'est pas saint celui-là encore, peut-être un jour, mais il avait une parole très simple en disant « Ce que le Christ apporte est nouveau, non pas parce qu'il va détruire le passé, mais parce qu'il tire du passé tout ce qu'il contient de virtualité. » C'est un peu compliqué d'un coup. Il n'a pas aboli ce qui était dans le passé, mais en nous donnant quelque chose de nouveau, il va au contraire accomplir ce qui était virtuel. C'était là, mais pas complètement dans l'ancien, là ou pas visible. Et en réalité, quand le Christ nous dit que le plus grand commandement, c'est l'amour, il est beaucoup plus exigeant que tous les commandements de l'Ancien Testament. Parce que quand le Christ nous dit d'aimer Dieu et son prochain, eh bien en fait, l'amour va jusque-là, jusque ce que nous avons entendu dans cet évangile. Il ne s'agit pas d'aimer à peu près son voisin. Il s'agit de l'aimer en vérité et jusqu'au bout. Et en réalité, si je l'aime réellement en vérité et jusqu'au bout, Dieu est mon prochain, alors de facto, je respecte tous les commandements. Ils tombent sous le sens. Tout ce que j'ai entendu dans la bouche du Christ aujourd'hui ne me surprend pas. Mais jamais je vais insulter mon frère. Mais jamais je vais convoiter. Jamais je vais, etc., etc. Si réellement j'ai entendu ce commandement de l'amour et que je le prends au sérieux, tout le reste suit. Toute la loi trouve son accomplissement dans l'amour parfait. Encore une fois, sainte Thérèse de Lisieux, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. On peut l'entendre de manière très poétique ou de manière très concrète. Mais en fait, c'est très concret, même si c'est beau aussi et poétique. Avant d'être un poème, c'est un commandement. Je suis là pour aimer. Je suis là pour aimer. Alors on pourrait se dire, du coup, quel intérêt a la loi ? Est-ce que les commandements, est-ce que tous ces exemples que nous donne le Christ, ou parfois ce que l'Église nous donne dans les commandements, est-ce que c'est utile ? Ou quelle est la place de ces commandements ? Ben je vous pose simplement une petite image pour essayer de comprendre comment ces choses un peu s'articulent. C'est que ce que nous visons, nous, chrétiens, ce n'est pas la loi. Et en ça, il y a quelque chose de différent et de nouveau dans le Christ. Quand il nous dit « si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, alors vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». On le sait, les pharisiens étaient très désireux de respecter la loi de Dieu. Il y a d'abord quelque chose de beau. Et ils y allaient à 100%, du moins ils essayaient. Et voilà Jésus qui nous dit « il faut faire plus, il faut le surpasser ». Eh bien oui. Oui, parce que si j'ai compris qu'effectivement ce que je pourchasse, ce que je suis, ce que j'ai comme objectif, ce n'est pas le commandement en général, mais c'est l'amour lui-même, alors je vais aller beaucoup plus loin. Si je vous donne cette image, le bout de la route, le but du chemin, c'est l'amour. Et l'amour, c'est pas autre chose que Dieu lui-même. Donc ce que je cherche de tout mon cœur et ce que je poursuis de tout mon cœur, c'est l'amour. Et les commandements ont leur place, on pourrait dire qu'ils sont comme les petites bandes blanches sur le bord de la route. Ils m'indiquent quand je fais une sortie de route. C'est-à-dire que si je me dis « je suis en train de poursuivre l'amour », c'est facile à dire, mais que dans les faits je commence à transgresser tel ou tel commandement, eh bien c'est que j'étais dans l'illusion. Je pensais être en train de poursuivre l'amour, mais j'étais en train de faire une sortie de route. Et donc toutes ces paroles du Christ, tous ces commandements sont comme des guides bienveillants pour nous dire « attention, ne dévie pas du chemin de l'amour, de la charité ». Ce n'est pas la loi que nous poursuivons, c'est l'amour, c'est Dieu lui-même que nous cherchons. Et donc il y a toute cette exigence qui vient derrière, ces commandements parfois un peu abrupts. On se dit « eh bien voilà, je pense que tout le monde ici est passible de la gêne de feu, moi le premier ». Qui n'a jamais traité de fou, malheureusement, quelqu'un, qui ne s'est jamais mis en colère. Mais ça, frères et sœurs, c'est notre expérience, effectivement. Effectivement, nous avons tous été quelque part mordus par le péché. Et c'est bien pour ça que le Christ est là. S'il n'y avait rien à sauver, il ne serait pas venu nous sauver. Il y a effectivement quelque chose qui doit être sauvé. Et d'abord, il nous redonne un peu ses bornes pour nous réveiller, pour réveiller notre conscience, pour dire, est-ce que tu ne te serais pas arrêté sur la route, sur le bord du chemin ? T'as commencé à faire une sortie, puis t'as trouvé que du coup il y avait des cailloux et des ronces, bah oui, c'est plus le chemin. Et du coup t'as arrêté de bouger. Donc réveille-toi. C'est là où il y a un côté un peu abrasif parfois à la parole de Dieu, et qui vient provoquer des petits sursauts. Je prends un exemple dans ce qu'il nous donne. Quand tu jures, c'est pas une bonne idée. Pourquoi ? En fait, ça tombe sous le sens. Si j'ai besoin de faire un serment en disant « je le jure par je ne sais pas quoi », c'est bien de dire que le reste du temps, quand je ne jure pas, ma parole peut être mise en cause. C'est-à-dire que d'habitude, je mens, mais pas cette fois. Là, je le promets. Ben, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Si mon oui est oui, toujours, ben, je n'ai pas besoin de faire de serment. Il n'y a aucun intérêt. Si ma parole est vérité en chaque instant, ces serments ne servent de rien. Toutes ces questions sur l'adultère, je ne trompe pas vraiment, je regarde un peu, je n'ai pas posé d'acte. Je pourrais assez vite avoir des petites justifications en interne, mais en réalité, tout ça c'est de la misère humaine. C'est des tentatives de justification, d'arrangement, de compromis. On sent au fond de nous que, dans l'absolu, c'est pas si bon que ça. Mais je me dis que c'est comme ça que ça fonctionne, que j'y peux rien, parce que j'arrête pas de retomber et que les autres c'est pareil, donc on s'y est habitué. Mais voilà, frères et sœurs, la bonne nouvelle de notre évangile d'aujourd'hui. C'est que lorsque le Christ nous redonne cette exigence qui nous paraît à la limite de l'absurde, Il vient nous dire, non mon ami, il y a un jour où tu seras un homme, il y a un jour où tu seras libre, il y a un jour où tout ça aura une fin. Et on ne va pas s'arrêter en cours de chemin, on ne va pas faire un pis-aller, pas trop mal. Moi je t'appelle à la sainteté, et c'est vrai, tu n'y es pas, mais c'est pour ça que je suis venu. Et c'est ça que nous pouvons entendre dans le creux des exigences du Christ, frères et sœurs. C'est que ce que Dieu nous promet, c'est bel et bien le royaume de Dieu, et pas un royaume humain pas trop mal, avec lequel on s'accoutumera, parce que, de toute façon, au moment on n'a plus de force. Dieu nous dit qu'il n'y a aucune situation où le mal est admissible, on l'avait dans cette première lecture du Siracide. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Bon, c'est clair. Voilà. Nous en sommes là, devant Dieu. Mais devant une promesse de salut, promesse de vie éternelle. Et ça, frères et sœurs, ça doit relancer notre cœur, de dire non, ce n'est pas une fatalité. Dieu a promis un terme au mal, à tout mal, toute forme, même le plus subtil, pour moi, pour le monde. Alors je donne un dernier point, c'est qu'il faut que je sois un tout petit peu prudent. Si j'entends ça, le risque, ce serait que je me remette à courir de toutes mes forces, ou dire, allez, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je vais y aller, c'est le carême dans 3 jours, terminé, j'arrête de pécher. Alors pour information, le carême, c'est pas le temps où on arrête de faire des péchés, hein. Ça c'est la vie ordinaire. Le carême, c'est le temps où on développe la charité. Péché, c'est valable toute l'année, qu'on essaie d'arrêter toute l'année. Mais voyez, on pourrait se motiver un peu de manière ambitieuse, en disant « je vais y arriver parce que finalement je suis fort, j'ai ma conscience, j'ai ma volonté ». Oui, mais là, frères et sœurs, soyons prudents et soyons humbles. Soyons humbles. Parce que si je me suis étalé au sol des dizaines de fois, qu'est-ce qui a changé en moi et qui fait que demain matin, je ne m'étalerai pas? Quelque part, moi, je suis le même. Si j'y vais avec mes seules forces, je suis fichu, je n'y arriverai pas. Quand il nous dit « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens », même les pharisiens n'arrivaient pas à être pharisiens. Ils passaient leur temps à rater. Et pourtant, c'était des doués. Hein. Alors si j'y vais de toutes mes forces, je n'y arriverai pas. Et là, je vous invite simplement à reprendre cette deuxième lecture, celle de saint Paul. Je ne vais pas trop détailler pour rester suffisamment bref, mais quand Paul nous dit « c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi », mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Il y a 2 sagesses. Il y a la nôtre, qui fait ce qu'elle peut. Et Paul nous dit, il y a une sagesse autre, qui vient de Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toute chose, même les profondeurs de Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est le mystère que nous allons célébrer dans quelques instants pour Marin. On ne va pas simplement lui dire « Allez, bon courage mon gars, tu rentres dans la vie, tu verras, c'est un peu dur, mais tu peux t'en sortir. » Non. On va lui permettre de recevoir l'Esprit Saint. Et ça, je vous pose une grande question, frères et sœurs. Est-ce que nous avons conscience de ce que veut dire le don de l'Esprit Saint? Ou si je la pose de manière un petit peu plus provocante, dans notre manière de chercher à ne pas faire le mal ou à faire le bien, qu'est-ce qui est différent entre nous, chrétiens, et tous les autres hommes? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un païen et moi? Ou simplement entre un juif et moi? Les juifs croient en Dieu, ils ont le vrai Dieu. Hein. On considère qu'ils n'ont pas tout compris de Dieu, mais ils ont le vrai Dieu. Ils cherchent à faire le bien. Un juif croyant, normalement, s'y applique. Il fait des efforts. C'est quoi la nouveauté du Christ? Qu'est-ce qu'il a concrètement changé dans ma vie? J'ai posé cette question à des jeunes professionnels, ils m'ont donné des réponses intéressantes, mais c'est tout des réponses un peu à côté. Oui, ben Dieu m'aime, super. Ça change quoi? T'arrives à plus pécher du coup? Mais Dieu me pardonne, super. Il te pardonne, t'es nul, il te pardonne, mais t'es toujours nul. Pardon, hein. Un peu provoquant. Hein. C'est bien, on est heureux du pardon de Dieu, mais Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans ma poursuite du bien ? Frères et sœurs, notre seule manière de pouvoir enfin accomplir le bien, ce n'est pas simplement en essayant de toutes nos forces, mais c'est profondément en nous laissant conduire par l'Esprit Saint. Je ne le détaillerai pas plus que ça, ce serait trop long et ça ferait appel à d'autres textes qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Il n'y a pas de vie chrétienne en dehors de la vie dans l'Esprit. Si ce n'est pas l'Esprit Saint lui-même qui renouvelle toute chose en moi, je serai toujours dans une tentative de fonctionnement avec Dieu. Il m'aide un peu, puis c'est un peu moi. Puis de temps en temps, plus lui, plus moi, je ne sais pas. Puis quand je tombe, il me relève, mais en fait, je fonctionne. Or, nous, chrétiens, nous avons accueilli le don nouveau de Dieu, l'Esprit de sainteté que nous recevons au baptême. Aujourd'hui, marin va l'avoir. Et toute sa vie, vous, parents, parrains, marraines, votre rôle, ce sera de lui apprendre à écouter l'Esprit Saint. Mais ça sous-entend que vous appreniez vous-même. Et il nous faut des années que l'Esprit nous conduise, parce que l'Esprit est l'amour. Si je laisse l'Esprit, l'amour même de Dieu, Dieu lui-même, être en moi et me conduire, alors peu à peu, cette loi, je l'accomplirai. Amen.